18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, on est le lundi 22 février et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Ce soir, on va parler licenciement avec ce qu'il se passe actuellement à la Maison pour tous de Penhard-Créache. Mais avant ça, je vous laisse écouter une interview réalisée plus tôt dans la journée pour parler des élections UFR qui sont à venir à l'Université de Brest. La vie de campus a été mise sur pause ces derniers mois. Il ne se passe pas rien pour autant. Et c'est même l'inverse, puisque dans quelques semaines aura lieu l'élection des différents UFR de la faculté de Brest. Si vous ne savez pas ce que c'est un UFR, ou que vous n'avez pas en tête ce qu'implique l'élection, vous tombez bien, car on accueille Maëla Desbois, coordinatrice générale des élus de la FEDEB, qui va nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cette élection. Bonjour Maëla.
Bonjour.
Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer ce qu'est un ou une UFR ?
Alors du coup un UFR, c'est aussi appelé une composante, du coup il y en a plusieurs, ça dépend des campus. Du coup je sais qu'ici à Brest il y a l'UFR Lettres, Sciences, TEGA, ce genre de choses. Et du coup c'est une composante qui va regrouper plusieurs filières selon la composante. Par exemple en fac de lettres on peut avoir des LEA, des arts ou des histoires par exemple. Et c'est comme ça dans chaque UFR.
Et donc là, les élections arrivent à grands pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consistent les élections ?
Alors du coup, concrètement, les élections, ça va, en tout cas pour les étudiants, ça va consister à voter pour des listes étudiantes, du coup, des étudiants qui deviendront élus en conseil UFR et qui pourront représenter les étudiants dans ces conseils-là. Et du coup, ça va se passer du coup cette année en distanciel. Ce sera en vote électronique, du coup. Oui, normalement, les étudiants recevront par mail un lien pour pouvoir voter, si tout se passe bien, et du coup, ils pourront voter pour élire leurs représentants étudiants. Et du coup, dans ces conseils UFR, il n'y a pas que des étudiants, du coup, il y a le doyen de la faculté, il va y avoir des personnels enseignants, mais pas que, il y a les personnels autres qu'enseignants, et d'autres choses encore.
Et donc là, vous parlez des étudiants, mais est-ce que les élections s'adressent à tous les étudiants ? Est-ce qu'il faut être inscrit à quelque chose, à une association avant de pouvoir voter ? Comment ça fonctionne ?
Alors du coup, c'est les élections UFR, du coup, c'est par UFR. Donc, je vais prendre l'exemple de la fac de sciences. Du coup, pour les élections UFR sciences, ce sera seulement les étudiants inscrits en UFR sciences qui pourront voter. Et du coup, il n'y a pas du tout besoin d'être dans une association ou quoi, juste être simplement étudiant et inscrit à l'université, ça fonctionne.
Et concrètement, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des étudiants d'avoir cette élection ?
Du coup, c'est super important parce que c'est le moment où les étudiants peuvent faire porter leur voix, autant pendant les élections, du coup, élire les représentants étudiants qu'ils voudront, la liste qu'ils voudront. Mais aussi plus tard, dans ces conseils, ce sera ces étudiants-là qui vont pouvoir reporter les problèmes de leur promo, par exemple, ou d'autres, enfin, de promos différentes de différentes filières. Et du coup, c'est assez important dans ce cas-là, parce que c'est important en conseil d'avoir des étudiants qui peuvent défendre les autres étudiants et qui ont le point de vue d'étudiants, que les professeurs ou autres personnels n'ont pas forcément toujours.
Et du coup, concrètement, c'est quoi les missions des élus UFR ?
Alors, les missions d'un élu UFR, c'est d'abord de préparer les documents des conseils en amont. Du coup, ils font ça ensemble et c'est pour pouvoir se positionner sur différents sujets que le conseil va aborder. Il y a siéger en conseil et voter pour faire porter sa voix. Et ça, je pense que c'est le plus important. Il y a faire remonter les problématiques des étudiants en conseil pour que certains problèmes soient réglés ou encore montés plus haut en conseil centraux, par exemple. Et il y a aussi le fait de communiquer, du coup, les actions des étudiants par le biais de réseaux sociaux ou ce genre de choses.
Et donc là, vous parlez du fait qu'ils servent notamment à faire remonter les problèmes. Est-ce qu'il y a des thématiques qui... Enfin, là, sur les années précédentes, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent plus que d'autres ? Enfin, là, je citais des choses très classiques, entre guillemets, mais les questions de sexisme, les questions de racisme. Est-ce qu'il y a des thématiques comme ça qui reviennent ? Où il y a presque même des gens qui sont spécialisés pour les traiter et pour faire remonter ces problèmes-là ou pas ?
Ça dépend beaucoup des problèmes du coup qui peuvent être remontés. Par exemple, je sais pas, Farron, vous parliez de sexisme ou ce genre de choses. Si un professeur, par exemple, a des comportements sexistes ou des propos sexistes, ça peut être d'abord remonté au conseil UFR, au doyen, etc. Et selon la gravité du cas, selon ce qu'ils décident d'en faire, ça peut être remonté du coup à des conseils centraux comme le conseil d'administration de l'UBO ou la CFVU, donc la commission de formation et de vie universitaire. Voilà. Mais sinon, en conseil UFR, je pense que les sujets les plus fréquents, c'est les modalités de contrôle de compétences, car c'est voté en UFR. Et il y a aussi les subventions données aux associations ou aux professeurs, car il y a des subventions pour les enseignants et d'autres pour les associations étudiantes. Et généralement, c'est en UFR que ça se vote. Et du coup, c'est aussi important d'avoir des étudiants pour ça, car les subventions demandées par les associations, c'est pour des projets pour les étudiants. Donc c'est aussi ce genre de choses. Et ça peut être un exemple tout bête, par exemple, un professeur a mis absence justifiée pour un contrôle à un élève. Le problème, c'est que des fois, les professeurs n'ont pas forcément le droit de le faire ou ils ne sont pas dans le droit de le faire. Et du coup, les étudiants en parlent aux élus, les élus remontent ça au conseil UFR et le problème est réglé comme ça.
Donc, voilà. Oui, donc en fait, il y a vraiment de tous les sujets. Il y a les problèmes un peu classiques, comme ce que moi je pouvais aborder avec le sexisme, etc. Mais il y a aussi des choses plus concrètes sur comment les étudiants sont évalués, etc.
Complètement.
Et je me demandais si avec le Covid, le rôle des élus UFR a changé. Est-ce que le rôle est plus important et plus nécessaire, je pense notamment sur tout ce qui est question de la précarité étudiante, etc. Ou est-ce qu'au contraire, comme il n'y a pas forcément de vide campus, parce qu'il n'y a pas d'étudiants présentiels ou très peu, du coup le rôle est moindre?
Alors du coup, le rôle n'est pas moindre du tout. Le rôle a beaucoup changé surtout. Il s'est adapté au Covid, du coup. Mais ce qui s'est passé, c'est que les élus UFR, encore une fois, ça dépend des UFR, mais beaucoup se sont penchés justement sur la question de la vie étudiante en confinement, en couvre-feu, ce genre de choses, être en distanciel, ils ont fait des questionnaires sur justement la vie des étudiants actuellement pour faire remonter un peu les besoins en UFR, encore une fois. Il y a aussi tout ce qui est modalité de contrôle de compétences, comme j'en parlais précédemment, du coup, ils ont changé avec le distanciel et du coup, il y a des problèmes que certaines promos font remonter à leurs élus départements, car il y a aussi des conseils départements, donc par filière, et que ces départements font remonter encore en UFR. Et c'est beaucoup de passages d'informations comme ça, et c'est pour aussi défendre un peu ce qui se passe, parce que des fois, c'est un peu difficile de s'y retrouver avec le distanciel, surtout pour les examens. Sinon, au niveau de la précarité, c'est assez difficile de se positionner là-dessus, parce que l'UFR n'a pas tant que ça de pouvoir au niveau des pour la précarité étudiante. Généralement, je sais que ça dépend des UFR encore une fois, mais il y a des choses qui sont votées en UFR pour un peu faciliter la vie des étudiants sur certains points. Mais sinon, généralement, ça se vote plus haut, en tout cas. Ou c'est au niveau du gouvernement, quoi.
Donc vous, Maëlle, vous êtes à la FEDB, mais est-ce que vous pouvez nous parler des différentes listes qui existent, la FEDB, mais pas que?
Du coup, oui, il y a la FEDB sur le campus, mais il y a aussi une autre organisation qui est principalement en UFR Lettres. C'est l'Alternative UBO. Du coup, eux aussi, généralement, ils posent aussi une liste étudiante pour les UFR et d'autres élections étudiantes, d'ailleurs.
Et du coup, est-ce que vous sauriez en quelques mots faire la différence entre la FEDB et l'Alternative UBO?
Alors du coup, la FEDB, c'est une fédération d'associations étudiantes. Du coup, on fédère 40 associations étudiantes et du coup, on est présent sur tout le campus et surtout, on est là depuis un moment, 27 ans cette année. Du coup, la FEDB se divise un peu en deux catégories. Du coup, il y a la partie très projet. On monte un projet qui s'appelle Bouffeton Dressing où on redistribue des vêtements à moindre coût du coup pour la précarité étudiante. Et toute la partie représentation, donc le fait d'avoir des élus en conseil, le fait de faire de la défense des droits des étudiants, ce genre de choses. Du coup, l'alternative, c'est une plus petite organisation, plus jeune, qui a un pied très, très ancré en lettres, mais beaucoup moins sur les autres UFR, mais principalement beaucoup plus syndicaliste, au niveau de leur fonctionnement, beaucoup plus de manifestations ou de mobilisations de ce genre-là. Mais sinon, dans le principe, c'est beaucoup de la défense des étudiants, évidemment. Enfin, de toute façon, les organisations étudiantes, forcément, ont ce rôle-là, de toute façon. Mais voilà, mais moins de projets, je sais, mais beaucoup d'actions pour les étudiants, en tout cas pour les représenter et les défendre.
Et donc là, vous parlez de l'alternative UBIO, qui du coup qui est vraiment centrée en lettres, mais peut-être est moins présent sur les différents UFR. Du coup, il y a cet UFR où il n'y a qu'une liste. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, ça sert à quoi de voter dans ces UFR-là où il n'y a qu'une seule liste ?
Alors du coup, c'est très important de voter, même s'il n'y a qu'une seule liste. Je comprends qu'on puisse se dire, bah du coup, dans tous les cas, que je vote ou pas pour vous, bah vous serez élu. Mais il ne faut pas du tout penser comme ça, parce que ça revient à ce genre de choses. Ça fait que des fois, des listes sont élues avec très très peu de voix, comparé au nombre d'étudiants de l'UFR. Et ça décrédibilise beaucoup l'équipe d'élus étudiants en UFR, parce que c'est une logique de comment on peut prétendre représenter des étudiants alors qu'on n'a eu que 10 votes, par exemple. Du coup, c'est pour ça, et du coup, plus on a de votants, plus on est représentant des étudiants, et plus on est écouté en conseil. Donc c'est très important de voter, même s'il n'y a qu'une seule liste. C'est pour ça.
Et est-ce que là, actuellement, au moment où on parle, il est encore possible de se présenter en tant qu'élu UFR ?
Ah, complètement, oui. En fait, n'importe qui peut monter sa liste, tant que la liste est complète. Après, les modalités sont dans les statuts de chaque UFR. Mais du coup, oui, n'importe qui peut monter sa liste, et ce n'est pas du tout trop tard pour monter une liste.
Et du coup, est-ce qu'il y a un profil à avoir ?
Du coup, pour être élu UFR, je pense que le plus important, bah, c'est déjà d'en vouloir, parce que c'est pas le travail le plus chronophage du monde, mais il faut quand même rester motivé pendant 2 ans, parce que c'est un mandat de 2 ans, du coup. C'est une à deux réunions par mois, et c'est des préparations, c'est discuter beaucoup avec les professeurs, les institutionnels, etc. C'est réussir à avoir une bonne cohésion entre l'équipe d'élus et entre les associations étudiantes aussi, pour faire remonter les problèmes et travailler ensemble. Et du coup, je pense que ouais, le plus important, c'est d'être très motivé, et surtout de savoir bien travailler en équipe. Et
Oui, il n'y a pas forcément de compétences à avoir en termes de communication ou...
Bah, faut quand même savoir un minimum s'exprimer, parce qu'on parle à des professeurs. On parle à des institutionnels, et il faut donner quand même une bonne image des étudiants aussi de ce côté-là. Et après, bien sûr, il y a des formations qui sont disponibles ou ce genre de choses. Mais du coup, oui, il faut savoir quand même s'exprimer un minimum, et il faut quand même réussir à prendre du recul sur certaines problématiques qui sont abordées en conseil UFR. Donc ouais, c'est un travail très enrichissant d'ailleurs, et c'est vraiment intéressant de pouvoir parler avec des... Par exemple, avec le doyen de ta faculté. Tu vois au final le point de vue qu'il a et comment il se comporte avec les étudiants, c'est assez intéressant, oui.
Et justement, en parlant d'expérience et de choses intéressantes, qu'est-ce que ça apporte de devenir un élu UFR ? Peut-être pour donner envie aux gens qui nous écoutent.
Alors, je pense que ça apporte beaucoup de compétences déjà basiques. La prise de parole en public, le fait de savoir s'organiser, de gérer des problématiques, de gérer des promos, des fois, qui te demandent des choses, qui comptent beaucoup sur toi. C'est gérer une responsabilité que tu as envers les étudiants. Et c'est assez intéressant là-dessus. Et du coup, je pense que ça peut apporter... Enfin, c'est une aventure humaine, au final. On rencontre beaucoup de monde. On rencontre, comme je disais précédemment, des professeurs avec qui on n'aurait pas discuté comme on le fait en UFR si on n'est pas élu. Et c'est assez intéressant là-dessus. Et ça permet aussi de rencontrer du monde au niveau des étudiants, bien sûr. Et c'est beaucoup de... Ça permet de gagner en rigueur, ça permet de gagner en prendre des responsabilités assez importantes là-dessus.
Et du coup, dernière question, si vous aviez à résumer en un mot, soit l'élection, soit le fait de devenir un élu UFR. Est-ce que l'élection, vous diriez que c'était quelque chose de nécessaire de...
Ouais, je pensais à essentiel comme mot, je pense.
Mais essentiel, c'est...
Ouais, c'est essentiel, bien, c'est bien.
merci beaucoup, Maëla.
Bah, de rien.
C'était donc Maëla Desbois, coordinatrice générale des élus de la FEDEB, là pour nous présenter les élections UFR qui auront lieu fin mars, début avril. Et pour rester dans le thème, je vous propose d'écouter le premier témoignage de notre nouvelle série de podcasts LUFR, sur les élections ULFR donc, qui ont pour but de mettre en avant des étudiants appartenant aux différents UFR. Et pour le premier, on commence avec Lucie.
LUFR, portrait d'élu étudiant.
Du coup, je suis Lucie Herry, je suis en troisième année de chimie à l'UFR de sciences de Brest. Les élections UFR, ça va être une période où on va choisir les étudiants qui vont nous représenter de manière très générale. Donc c'est 14 étudiants qui vont porter la voix des étudiants de tout l'UFR de sciences. Moi, je me suis investie dans cette liste. Enfin, je me suis proposée pour être dans cette liste pour deux choses. La première, représenter les étudiants, essayer de porter leur voix dans les conseils de façon claire, on va dire. Enfin, de vraiment donner, essayer de porter l'avis d'un ensemble de personnes. Et aussi pour découvrir un univers que je connaissais pas forcément, que sont les conseils de la faculté, comprendre comment ça fonctionnait là où j'étudiais, et essayer d'apporter quelque chose à titre personnel. Je pense qu'il y a un point où on se rend pas compte, c'est vraiment l'importance en tant qu'étudiant de pouvoir porter une position, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on n'a jamais forcément eu à faire dans notre vie, et je trouve que à titre personnel c'est assez intéressant de pouvoir aller dans un domaine qu'on connaît pas, et en fait on n'a pas besoin de qualification pour être élu. On va dedans, on a des formations qui sont proposées par les fédérations qui nous entourent, et on apprend beaucoup, même en discutant avec les profs, je trouve que ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas un grand fossé entre profs et étudiants, par exemple, ou l'administration. Ils sont tout aussi conscients de nous de beaucoup de choses, et c'est quelque chose que je trouve qui permet de prendre du recul par rapport aux tensions qu'il peut y avoir entre étudiants, quand les étudiants pensent que les profs ne comprennent pas, ou alors quand on se dit les professeurs qui disent que les étudiants sont pas capables de réfléchir. Ça leur permet eux aussi de se dire, ah ouais, en fait ils sont capables de prendre des positions en ayant conscience de ce qui se passe, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui est pas forcément établi dans la tête de tout le monde, et qu'on apprend en faisant ce travail d'élu. Du coup, en tant qu'élu étudiant, les missions qu'on va porter, ça va être du coup premièrement d'essayer de recueillir l'avis des étudiants, que ça soit en faisant des sondages, ou de manière un peu plus informelle, en discutant avec nos propres promos ou avec nos amis dans les différentes promotions de l'UFR. Et du coup, une fois qu'on a obtenu ces avis, nos objectifs, ça va être de les transmettre lors des conseils, lorsqu'on aura des votes ou qu'on nous demande nos avis, savoir dire un petit peu ce qui se dégage au sein des étudiants, pour que les décisions soient prises en prenant compte justement de cet avis-là qui a été demandé. Pendant ces deux dernières années, on a eu une volonté d'intégration des étudiants de manière générale, en essayant de rendre la fac un petit peu plus inclusive. Donc on a insisté pour essayer de rendre la fac un petit peu plus accessible aux personnes qui ont un handicap. Et aussi, par exemple, on aimerait, c'est un projet qui plaisait beaucoup à la doyenne, renommer les amphis qui sont appelés amphi A, amphi B, etc., en donnant des noms de scientifiques, et que du coup, dans ces noms de scientifiques, il y ait 50% de noms masculins et 50% de noms féminins, pour un petit peu aussi donner une perspective, je pense, aux étudiants qui peuvent se poser des questions sur la science, et puis taper des noms avec curiosité. On a une position peut-être plus récente qui va être liée du coup au coronavirus. Et là, c'est des positions qu'on a prises en prenant les avis des étudiants pour la reprise en présentiel, pour le bien-être des étudiants de manière générale. Et par exemple, pour les TP aussi, vraiment insister, même si les professeurs étaient d'accord avec nous aussi, donner l'avis des étudiants, comme quoi pour nous c'était important d'aller en TP pour apprendre. Nous, dans l'équipe de Lyon, on a une anecdote qui nous a fait beaucoup rire, parce qu'il y avait une course qui allait passer au sein de la fac, une course de nuit, et en fait on a un running gag sur un bâtiment qui est dans un état lamentable. Et du coup, la doyenne, elle avait proposé, pour rigoler évidemment, qu'il passe par ce bâtiment-là pour faire un triathlon au lieu d'une course, parce qu'il prenait l'eau. Mais c'est évidemment à titre informel.
LUFR, portrait d'élu étudiant.
Et on écoute tout de suite In My Arms de Alex G. Sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Rien ne va plus à la Maison pour tous de Penhard Créage. Dans le cadre d'une restructuration de l'association, deux licenciements économiques sont en cours. Eva Ita, secrétaire accueil depuis 10 ans, et Marianne Gambier, 58 ans, coordinatrice jeunesse depuis 38 ans, sont concernées. Pour en parler, nous recevons Olivier Cuzon, délégué syndical et détenteur d'un agrément du préfet du Finistère. Bonjour Olivier Cuzon.
Bonjour.
Et bonjour Pierre-Louis.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Olivier Cuzon, vous êtes une figure, on peut le dire, du militantisme et syndicalisme brestois aux multiples casquettes. Vous êtes dans ce studio avec celle du syndicat Sud Solidaire. Est-ce que dans un premier temps, on pourrait parler un peu de l'humain ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces femmes et leur action au sein de la MPT ?
Donc ce sont des salariés qui passent beaucoup de temps en fait, hein, parce que dans une MPT comme ça, il y a un peu deux types de salariés. Il y a des permanents qui font tourner la structure. Et puis, il y a une quarantaine, à Penhard Créage, par exemple, une quarantaine de personnes qui font des activités. C'est entre 2 heures par semaine et puis 10-15 heures par semaine, quoi. Alors qu'elles, ce sont vraiment des salariés au quotidien. Elles sont là, elles accueillent, elles organisent, elles gèrent, elles essayent de faire vivre le projet aussi, parce qu'il y a tout un projet social, éducatif.
Oui, et puis considérés un peu comme des piliers de la MPT, non ?
Ah ben, en particulier, Marianne et Eva, clairement, elles sont vraiment des piliers. Eva, elle est du quartier. Donc avant d'être salariée de la MPT, elle a beaucoup vécu dans ce quartier de Penhard Créage. Et donc elle connaît plein de monde là-bas. Et puis Marianne, 37 ans dans une structure sociale. On a rencontré plein de gens, on a rencontré les parents qui sont devenus des enfants qui sont devenus des parents. Et elle a pas encore les avoir petits enfants, mais voilà, elle a monté plein de projets. Il y a toute une reconnaissance. C'est vachement chouette parce qu'au détour de ce mouvement social qui est un peu dramatique, on va en parler. Mais du coup, on rencontre plein de gens qui ont pu bénéficier d'avoir croisé ces personnes et on ressent à travers leurs témoignages énormément de chaleur et de reconnaissance.
Le motif des licenciements qui est invoqué, comme l'a dit Marie en introduction, c'est le motif économique. J'ai lu que vous le contestez.
Effectivement, c'est quelque chose dont on a un peu de mal, nous, à accepter comme ça, à brûle pour point, sans avoir un peu de discussion. Alors, les comptes font état d'un déficit de 20 000 euros en 2020. Bon, c'est pas la seule structure, ni associative, ni même dans le monde de l'entreprise, qui soit en déficit en 2020. On a comme une année extrêmement perturbée, en particulier évidemment au niveau des activités sociales. Et dès le mois de janvier, la direction de la MPT annonce un déficit de 80 000 euros au mois de janvier 2021. Alors moi, je l'ai pas dans le marc de café, mais bien malin quand même, qui pourrait dire de quoi l'année 2021 sera fait début janvier, quand. Est-ce qu'on va être confiné? Si on est confiné, quand est-ce qu'on va être déconfiné? Quand est-ce que les activités pourront reprendre? Enfin voilà, nous, ça nous semble relativement peu objectif d'annoncer déjà un déficit de 80 000 euros. En plus, bon, c'est une structure. Par ailleurs, le temps de la comptable, il a augmenté. Donc on augmente le temps de la comptable et puis on licencie la secrétaire. Bon, voilà, ça nous laisse extrêmement sceptiques. Bon, c'est pas forcément ici qu'on va régler ça, mais c'est vrai que nous, le licenciement économique, on le conteste.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la décision a été prise, puisque la MPT, c'est une association, donc décision du conseil d'administration, c'est ça?
Voilà, c'est le conseil d'administration qui a décidé un peu de sacrifier, j'ai envie de dire, ces deux salariés. Je dis sacrifier parce que c'est pas un hasard non plus les salariés qui ont été choisis. Dans une MPT comme ça, il y a trois gros secteurs d'activité, on va dire, selon la tranche d'âge du public qui est accueilli. Il y a la petite enfance. Et donc ça se traduit par de la crèche, de la garderie. Mmh. Et donc c'est un secteur qui est équilibré, voire qui rapporte de l'argent, hein, puisque les parents payent. Et quand c'est les parents qui payent, quand les parents n'ont pas les moyens, c'est la CAF, il y a des aides sociales. Il y a le secteur des adultes. Et donc là, c'est des activités qui rapportent aussi, hein, parce que c'est vrai que ça coûte assez cher, en fait, finalement, d'aller faire des activités dans les maisons pour tous. Et puis au milieu, entre la petite enfance et les adultes, ben, il y a la jeunesse. Et la jeunesse, ils ont pas de sous, les jeunes. En particulier dans des quartiers prioritaires comme Pennard-Créache. Et donc, on peut pas les faire payer très très cher. Parce que l'objectif n'est pas là, d'ailleurs. L'objectif, c'est de les faire venir. Et c'est un peu ce secteur-là. On a l'impression qu'ils ont décidé de se couper un bras, là. En licenciant Marianne, par exemple, qui est coordinatrice jeunesse. C'est pas rien, un poste de coordinateur jeunesse. Moi, j'ai rencontré une équipe sur place qui est complètement démobilisée et qui est complètement perdue. C'est des animateurs jeunesse, mais on est en train d'enlever le chef d'orchestre. Mmh. Alors, sauf à croire que ça sert à rien d'avoir des gens qui organisent et qui pilotent un peu et qui animent, les salariés se demandent bien où va le navire, là, s'il n'y a plus de capitaine à bord.
Ouais, dans un communiqué, votre syndicat a eu des mots durs et pointait des annonces brutales sans aucun dialogue social qui s'apparentent à des méthodes de patrons voyous. J'ai lu ça.
C'est vrai que donc ce fameux conseil d'administration, à un moment il est souverain, hein, en novembre, et donc il décide du licenciement de deux personnes. Il y a aucun dialogue avec ce qu'on appelle la déléguée CSE, conseil économique et social. Il y a aucun dialogue pendant tout le mois de décembre, et les deux salariés apprennent ça au retour des vacances de Noël. Alors bonne année déjà, hein, pour commencer, voilà. Et il n'y a pas de discussion possible. Normalement, dans une restructuration, on peut essayer de discuter, voir comment est-ce qu'on va essayer de s'organiser autrement, perdre moins d'argent, essayer de déployer d'autres activités, faire venir plus de monde, je sais pas, on peut avoir de l'ambition aussi, hein, c'est pas interdit dans une... Et là, on a l'impression, c'est réduire la voilure, licencier, moins de travail, du coup, sur le terrain, voilà. Alors, ce qui nous donne d'autant plus, c'est que c'est des postes un peu particuliers, c'est que ce sont des postes qui sont particulièrement subventionnés par les collectivités, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas des postes qui ont leur c'est pas une activité, la jeunesse qui a des ressources propres, c'est un poste qui est sous perfusion de subventions, et c'est pas choquant en soi, hein. Moi, je pense que les jeunes ils sont aussi bien à la MPT que dans la rue à s'ennuyer dans leurs appartements. Par contre, il faut accepter que ce soit subventionné. La contrepartie de ces subventions publiques, c'est que la puissance publique, elle a un droit de regard. On met de l'argent dans ces structures, mais elle a le droit de regarder ce qui se fait aussi. Et là, forcément, deux licenciements dans ce secteur jeunesse, ça fera moins de travail sur le terrain. Nous, on trouve que c'est un signal extrêmement mauvais qu'on envoie au quartier, aux jeunes de ce quartier, qui n'ont pas démérité non plus. On sort d'une période, on y est encore d'ailleurs, dans une crise sanitaire extrêmement dure. On sait à quel point cette crise sanitaire a révélé des inégalités sociales et les a même creusées. Toutes les études sociologiques sont dramatiques. Et c'est pas fini, parce que il y a encore des études qui vont sortir, si on commence à éteindre la petite lumière qu'il y a au bout du tunnel, alors qu'on est encore dans le tunnel, le coup est un peu rude quand même.
Olivier Cuzon, vous le disiez, pas de dialogue social, donc je me demande quel est l'état psychologique des salariés actuellement.
Moi j'ai rencontré une équipe démolie, parce que être salarié d'une association, c'est participer à un projet commun, c'est partager des valeurs d'éducation populaire, des valeurs sociales. Il y a quand même forcément des... Et là, l'association est complètement fracturée, entre d'un côté une présidente et un conseil d'administration qui pilote et qui n'a plus de contact avec une équipe salariée qui est complètement démobilisée et qui ne sait plus où on va. Et voilà, c'est terrible de rencontrer ça. De par mon statut de conseiller du salarié, j'assiste des salariés en procédure de licenciement. Et régulièrement, dans le monde de l'entreprise, il y a des conflits et c'est normal. Et j'ai envie de dire que c'est un peu inné quand même entre un salariat et des employeurs. Mais alors, dans le monde associatif, on pourrait penser que les gens sont plus liés par des valeurs communes et un projet commun. Et là, on sent une équipe complètement déchirée et sans perspective.
Alors, j'ai vu sur votre page Facebook, vous avez publié un texte, je vais lire quelques extraits. Il faut maintenant passer de la parole aux actes et la collectivité, premier financeur de la MPT, doit se prononcer sur ces deux licenciements et les condamner. Vous citez notamment Éric Guélec du Parti communiste qui est en charge du monde associatif à Brest. Lui disait, malgré l'incertitude liée au contexte, notre majorité n'entend pas faire le choix de la frilosité financière ou de l'austérité budgétaire. Pour faire face aux conséquences sociales et économiques immédiates de la crise sanitaire, notre équipe entend, à l'inverse, continuer à faire des choix volontaristes, celui de la solidarité avec tous les habitants. Vous attendez quoi de la municipalité ?
Déjà, moi, je peux que rejoindre Éric Guélec dans ses propos. Et Yann Gevel, l'adjoint aux finances, dit « il faut emprunter, il faut s'endetter. C'est maintenant que le pays va mal ». Qu'il faut créer de l'endettement. Accessoirement, les taux d'intérêt sont pas bien élevés, donc c'est le moment. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est un positionnement de la mairie de Brest qui ne peut pas fermer les yeux. Parce que, quel que soit le bout par lequel on prenne ce dossier, par l'entrée de la question de l'emploi, par la question sociale, ou par la question de la prévention aussi, prévention de la délinquance, parce que une mairie, elle a quand même aussi la responsabilité d'avoir de la paix sociale dans les quartiers. Quel que soit le bout par lequel on prend ce dossier, on pense que le maire de Brest aujourd'hui, qui est socialiste, et dans socialiste, il y a social, eh bien, ce maire doit se positionner pour dire qu'il n'approuve pas ces licenciements. C'est courant de voir un maire qui se positionne. Aujourd'hui, on nous renvoie à l'indépendance des associations. C'est vrai que les associations sont indépendantes et prennent leurs responsabilités, mais dans la mesure où ils sont subventionnés et où elles bénéficient d'argent public pour assurer des missions de service public, parce que le travail social c'est une mission de service public, ils ont des comptes à rendre au public, et donc en l'occurrence au maire. Le maire, il n'hésite pas à intervenir dans plein de villes de France quand il y a des entreprises qui ferment, quand il y a des... Eh bien, c'est pas parce que c'est le monde associatif qu'on doit s'empêcher d'avoir un avis sur une politique sociale qui, de notre point de vue, est désastreuse.
Oui, d'autant plus s'il est en partie financé par la municipalité.
Absolument.
Le droit de regard
encore
devrait se justifier assez facilement. Nous regrettons cette restructuration sévère mais réfléchie. Ça, c'est Marielle Lecomte, présidente de l'association d'éducation populaire qui gère Peinard Créage. Si nous comprenons la colère et la déception des salariés, nous n'avons pas d'autre solution. Nous choisissons de nous séparer de deux personnes maintenant plutôt que de mettre plus tard la clé sous la porte. Comment vous réagissez à ces propos, Olivier Cuzon, délégué syndical ?
Comme toutes les entreprises, parce que c'est une forme d'entreprise, les associations peuvent bénéficier des nombreuses mesures gouvernementales regroupées sous le chapeau, là, quoi qu'il en coûte. Ça a été du chômage partiel, ça a été des possibilités de payer plus tard les cotisations sociales, ça a été des prêts à taux zéro. Rien n'a été activé, si le chômage partiel a été activé. Mais au-delà, rien n'a été activé à la MPT de Pénard-Créache. On a un peu de mal à voir pourquoi, alors qu'il y a plein d'entreprises qui sont en difficulté dans le monde de l'associatif, de la culture, du sport. Il y a plein d'associations qui sont en difficulté et qui mettent pas la clé sous la porte. Parce que, ben, on croit à l'avenir. C'est pour ça qu'on se lève le matin et ça nous semble terrible d'envoyer ce message à la jeunesse, de dire, bon ben voilà, on supprime 2 salariés, il y aura moins de travail social dans les années à venir, sans avoir vraiment étudié toutes les possibilités qu'il y avait. On aurait pu imaginer d'ailleurs que d'elle-même, la direction de la MPT de Pénard-Créache aille frapper à la porte de la mairie pour dire « aidez-nous, aidez-nous ». Or, la mairie, de source sûre, ils l'ont appris dans le journal, ces licenciements. C'est pas normal. Tous les signaux d'alerte auraient dû être tirés sur un quartier. C'est pas le jour où il y aura le feu, je le souhaite pas, hein, mais il y aura le feu dans Pénard-Créache et des voitures brûlées ou du trafic de drogue, qu'il faudra venir dire « ben, on n'a pas vu le coup venir ». Voilà, et il s'est passé des choses dramatiques à Kérourien il y a quelques mois. Comment on se donne les moyens d'éviter de nouveau cette guerre sociale ?
Ouais, en fait, pour vous, c'est que cette crise, finalement, a été mal gérée de la part du conseil d'administration. Je reviens sur les propos où, quand il y a un problème comme ça, les premiers qu'on alerte sont la mairie, qui plus est, quand la mairie finance en grande partie.
Absolument. La mairie qui, d'une part, est un financeur, d'autre part, est l'autorité politique. Le maire aurait dû être le premier au courant de cette situation de crise financière de la MPT, qu'on peut entendre. Moi, j'entends que la MPT, sur les 20 000 euros, sur les 80 000, on les conteste. On entend cette situation de crise. On n'entend pas que ces décisions aussi brutales soient prises vite fait, bien fait, un soir de conseil d'administration, sans aucun dialogue avec personne, ni avec la mairie, ni avec les salariés, ni avec les usagers.
Alors... À ce jour, la direction maintient sa position, veut toujours fermement licencier les 2 salariés en question. Il y a eu déjà des entretiens, en tout cas un entretien, qui a été qualifié d'agressif. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
D'abord, c'est très froid. C'est très froid. Eva, elle a 10 ans d'ancienneté, elle arrive, c'est extrêmement brutal, on lui sort des chiffres, il n'y a aucune humanité, aucune empathie. On a eu la lecture de 4 pages de comptabilité, là. C'est anecdotique, hein, mais pour elle, ça a été très violent. Ça a été très violent. On lui dit, elle demande à récupérer ses affaires dans son bureau. On lui répond, vous prendrez rendez-vous. Je veux dire, ça a été son lieu de travail. Elle a plein de choses qui lui appartiennent. C'est comme si elle avait commis une faute. Elle est mise à la porte comme si elle avait commis une faute grave. Il y a des salariés qui commettent des fautes graves. Moi, je rencontre, il y a des salariés qui piquent dans la caisse, il y a des salariés qui... Eva, elle a rien commis. C'est un licenciement économique, on ne lui reproche rien. Et elle est chassée comme une malpropre, et pour récupérer ses affaires, il faut qu'elle prenne rendez-vous. C'est pas une pestiférée. Elle allait hyper mal. Moi, j'ai rencontré une salariée qui allait hyper mal, qui était obligée de prendre des cachets avant d'aller à son entretien de licenciement. Est-ce que c'est normal ? Je pense qu'il y avait d'autres manières de gérer cette crise, même si on en était arrivé à un licenciement économique, au final, dans quelques mois, parce que tous les autres leviers auraient été activés. Il y a quand même d'autres manières de remercier des personnes qui ont été 10 ans pour Eva, 37 ans pour Marianne, de bons et loyaux services. Et on sait très bien comment on s'investit dans les associations, vous êtes bien placés pour le savoir ici. On compte pas ses heures, c'est partager des choses communes, on n'est pas que des salariés, c'est pas l'usine non plus. On partage aussi un projet politique au sens noble du terme.
Et à votre avis, comment on en est arrivé là ? Question compliquée, je reconnais.
Oui, parce que c'est pas... Je pense qu'on est dans une gestion comptable, c'est terrible à dire, parce que moi-même, par ailleurs, je fais du syndicalisme dans mon domaine d'activité, qui est l'éducation nationale, et on n'arrête pas de dénoncer cette gestion comptable. Je crains que cette gestion comptable, elle ait envahi un peu aussi une partie du monde associatif, qui est... On peut l'entendre, hein. Je pense que la question des finances, on ne peut pas la balayer d'un revers de main, mais ça ne peut pas être l'unique entrée. À un moment, on assure aussi un rôle social dans des quartiers, et ça a un coût aussi. Et si la MPT n'est pas capable d'assumer seule ce coût, et il faut qu'elle se tourne vers d'autres structures. Mais si on n'est plus capable de faire ce travail de prévention, et de prévention de la délinquance, pour dire le mot jusqu'au bout, hein, ben on va vers des coûts sociétaux autres. Est-ce qu'il va falloir mettre des forces de police partout, ouvrir une deuxième maison d'arrêt à Brest, enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais je veux dire, c'est essentiel ce travail de prévention. Et il faut mettre la main à la poche, il faut continuer. Plus que jamais, il faut continuer. Et puis, de façon plus globale, après, c'est le pacte républicain même qui sort fragilisé de cette affaire. Hein, parce que c'est la cohésion autour d'un certain nombre de valeurs communes qui on fragilise.
Olivier Cuzon, est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui l'ambiance au sein de la MPT, alors pas forcément que les salariés, mais un peu plus large avec justement tout le public qui y passe?
Moi, j'ai rencontré des usagers, parce que c'est le plus important. J'ai rencontré des usagers qui, déjà pour les souvenirs, parce que beaucoup revenaient pour Marianne et Eva, qui les avaient rencontrés sur des mois, des années, avec des témoignages extrêmement émouvants de comment des projets les avaient sortis de la galère actuelle ou à venir, et ça leur a permis d'avoir le fait d'avoir des projets, de rebondir, de se construire. C'est un moment difficile, l'adolescence. C'est voilà, on cherche ses marques, on sait pas trop où on veut aller, on rencontre des gens qui sont pas forcément très sains non plus et qui voudraient vous amener dans des économies parallèles, etc. Et y a des adultes des fois qui ont la capacité de vous mettre sur les rails et de vous donner de l'ambition et de vous faire prendre confiance en vous et c'est assez extraordinaire ces jeunes que j'ai, enfin des jeunes et des moins jeunes, hein, enfin bon, ils avaient 25 ans quoi, 30 ans, et ils étaient passés par cette MPT et ils ont gardé un souvenir extraordinaire quoi, et c'est voilà, et ils étaient évidemment abattus par, ils comprennent pas en fait, c'est d'une violence ce qu'on leur renvoie là, de cette brutalité et ce monde du salariat où des choses peuvent s'arrêter comme ça du jour au lendemain, hein, pour des contextes économiques difficiles.
Quelque part, vous avez peur, et à la MPT, on a peur que ça renvoie justement une mauvaise image, un mauvais exemple pour tous ces jeunes, moins jeunes, usagers, ex-usagers qui sont passés par là.
Oui, tout à fait. Et ça vaut pour le quartier de Pénard-Créage, mais moi j'ai eu d'autres retours sur d'autres dispositifs sociaux dans la ville où on comprend. Un certain nombre de salariés, mais aussi d'usagers, sont un peu abasourdis par des décisions aussi violentes, aussi brutales, sans concertation. Ça fragilise. Ça en fragilise les projets, c'est sûr. Les projets d'intégration, enfin de projets sociaux sur la ville.
Peut-être le seul mérite, c'est que ça fédère autour d'une contestation, mais ça fédère quand même.
Oui, absolument. C'est sûr que sur la MPT, on retrouve plein de gens. L'entretien de licenciement d'Eva, mercredi dernier, il y avait plein de gens du quartier qui n'ont pas l'habitude. Pour un certain nombre, c'était la première fois qu'ils venaient exprimer une solidarité avec Eva. Et ça avait un côté... Bon, c'était émouvant, hein. Je ne vais pas dire qu'il y avait de la joie, hein, parce qu'il y avait beau avoir une fanfare, etc. C'était pas... Mais c'était très émouvant de voir ces gens qui ne sortent pas beaucoup, hein, souvent qui se sentent pas légitimes à venir dans des lieux où des fois ça discute sans doute trop politique, trop ceci, trop syndicat, mais là ils avaient leur mot à dire, ils étaient des gens en colère qui comprenaient pas cette décision et qui voulaient vraiment affirmer leur solidarité vis-à-vis d'Eva, et c'était un chouette moment quand même.
Alors des démonstrations de solidarité, des manifestations, il y en a eu un petit paquet là depuis un peu plus d'un mois, je les ai même pas comptées en fait, parce qu'il y en a quand même eu pas mal qui ont rassemblé, mine de rien, un petit paquet de gens. Est-ce que vous espérez pouvoir retourner cette décision en étant soutenu comme ça par le public, les usagers, ex-usagers, connaissances qui viennent soutenir la cause, entre guillemets?
Oui, nous on désespère pas que ce qu'un certain nombre de Brestois ont pu ressentir, ces membres de ce conseil d'administration, ils le ressentent aussi, parce qu'ils ont aussi un cœur, hein, j'en suis persuadé, et qu'ils se disent à un moment, on peut se tromper, parce que tout le monde peut se tromper dans la vie, et un conseil d'administration, parce qu'en l'occurrence, là ça s'est joué sur 2 ou 3 heures, un conseil d'administration peut se tromper, et peut revenir sur sa décision, et nous on a bon espoir que ces gens-là changent d'avis. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place en fait, en essayant d'en parler, et on vous remercie de relayer un peu cette lutte qui semble qui semble extrêmement symbolique et essentiel pour autant pour l'avenir qu'on se prépare.
Si licenciement il y a quand même, malgré toute cette mobilisation, quelle est la suite, Olivier Cuzon ?
Alors la première chose, en fait, c'est qu'on a désigné Marianne Gambier comme responsable de section syndicale, ce qui fait que son licenciement va être entravé. Faut que le conseiller économique et social soit consulté. En plus, il y aura l'inspection du travail qui donnera son avis. Donc voilà, nous, on essaye avec les armes qu'on a de retarder le plus possible son licenciement. Et puis après, on ira devant les tribunaux qui nous restent. Donc le tribunal pour les salariés, c'est le tribunal des prud'hommes. Et donc on ira devant ce tribunal contester le licenciement économique. Nous, on pense qu'on a de bonnes chances d'avoir gain de cause. Ceci dit, dans le meilleur des cas, le tribunal jugera que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. Et il n'a pas la possibilité de réintégrer les personnes. Ces personnes-là, en attendant, elles sont dehors. Eva, elle est précaire. Elle avait déjà que 20 heures par semaine dans cette structure. Donc ça réintégrera les personnes. Ça leur redonnera une fierté, certainement. Et voilà, mais c'est vrai que ça reste une procédure à défaut, on va dire. Notre principal combat aujourd'hui, c'est que les salariés restent dans la structure et qu'on trouve d'une façon ou d'une autre les moyens de financer le travail qu'ils font.
Merci beaucoup, Olivier Cuzon, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes délégué syndical et par ailleurs, c'est le moment d'inviter nos auditeurs, si nouvelle manifestation il y a, de donner un rendez-vous, une date, etc.
C'est vendredi prochain, le 26 à 11h, devant la MPT pour l'entretien de licenciement de Marianne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et maintenant, on écoute le titre « La erosión del corazón » du rappeur espagnol Pablo Hasél, dont vous avez dû entendre parler ces derniers temps, car il est condamné à 9 ans de prison pour insulte à la monarchie et apologie du terrorisme, et que de nombreuses manifestations pour protester sont en cours au nom de la liberté d'expression.
Es la paradoja del corazón que se hace más grande cuanto más erosiona. Mi economía empeora, pero mejoro como persona. Hay sueños que se pagan con insomnio. Parto tanto amor que a veces me odio. Subo el volumen hasta que la música me consume y los demonios gritan: vamos, no estés sobrio. Dándolo todo por lo poco que queda bonito. A veces sin encontrar mi espacio en este infinito. Te invito a una mente que piensa en los demás, sabiendo que enamorado del egoísmo no entrarás. Echando de menos, soy menos productivo. ¿Qué puedo hacer si el presente no supera lo vivido? Me enganché a perder oportunidades por tener la emoción de buscar otras más grandes. Tu adiós pareció que saludaba mi muerte. No cerrar los ojos me costó no volver a verte. Intento sacar una lección de toda la tristeza. Paso página, pero el mismo libro empieza. Decepciones ajenas que se pagan decepcionándote a ti mismo. La peor puñalada. Siempre hay un vacío que no puedes llenar solo. Ojalá lograra verme como me ven tus ojos. Ante la bestia me arrojo hasta que no la tema. Soy un poema pensado en el calabozo. Atrapado en cada abrazo que no nos dimos. Caigo bajo sin un cajo que se separan los caminos. Siento tan aburrido el circo que les divierte. Hay amores efímeros que hieren para siempre. Me miento por sincero. Fue tan violento tu te quiero. Ojalá engullera el tiempo tu negro agujero. Muero entre ausencias y la depresión sobria, pero disfruto luego haciéndome la autopsia. Mente atormentada pa' que la lluvia puedas disfrutar, aunque pase sed al beber de mi propio mar. La paciencia se erosiona por cada hecho injusto.
pero podría esperar siglos. Aunque esto a veces no llegue, ni a broma de mal gusto.
Been spending so much time on the ground. I guess my eyes adjusted.
Y aunque el corazón se erosiona, así llego a lo más profundo de este, mientras el tuyo sigue en coma.
Been spending so much time on the ground. I guess my eyes adjusted. To the lack of light, I got covered in darkness, covered in darkness.
Vous êtes sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites. On écoute la chronique radiophonique Le Littoral Autrement, réalisée par Raphaël en service civique à Radioactive, et dont la saison s'intéresse à la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Au micro de Raphaël, on pourra entendre Alain Poncerot, conservateur de la réserve, ou encore Anthony Sturbois, chargé de mission scientifique de la réserve, et bien d'autres acteurs et contributeurs de la baie naturelle de Saint-Brieuc.
Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
Je m'appelle Alain Poncerot et je suis le conservateur de la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc. Donc c'est une réserve qui a été créée en 1998, après 25 ans de mobilisation des citoyens pour protéger le fond de baie. La réserve naturelle, elle se situe dans l'anse d'Ifignac et dans l'anse de Morieux, donc sur 1140 hectares, avec 4 habitats essentiels. Le plus important en termes de surface, ça va être l'estran, hein, donc cette grande zone de sable qui est découverte à marée basse. Dans ce sable, il y a une multitude d'invertébrés, hein, ce qu'on appelle le benthos, donc ces coquillages, ces crustacés, ces vers, qui vont être une source de nourriture essentielle pour les oiseaux. Et puis en fond d'anse d'Ifignac, on a des présalés. Donc les présalés, c'est une végétation terrestre, mais qui subit régulièrement la venue de la mer. Et ces présalés ont des habitats qui sont extrêmement morcelés, extrêmement réduits à l'échelle mondiale, et pourtant qui sont essentiels dans le fonctionnement du milieu marin. C'est pour ça que nos présalés ici, en baie de Saint-Brieuc, sont ce qu'on appelle en zone de protection renforcée, c'est-à-dire l'accès y est interdit, pour laisser cette végétation naturelle évoluer. En fondance de Morieux, il y a les dunes de Bonabri. Alors c'est le seul bout terrestre, hein, de la réserve naturelle. Un site qui est très important, c'est notre hotspot de biodiversité. Il y a plus de 1400 espèces qui ont été inventoriées sur ces 7 hectares de dunes. Donc c'est vraiment le site en termes de diversité biologique le plus important pour la baie de Saint-Brieuc. Et puis le dernier habitat, c'est l'estuaire du Gouessant, donc un estuaire qui est relativement perturbé, hein, parce qu'il y a des barrages, parce qu'il y a une qualité d'eau qui est encore largement insuffisante, mais qui est un site important parce qu'il y a pas mal de poissons migrateurs qui vont essayer de remonter dans cet estuaire. On a de la grande alose, des lamproies, des anguilles, etc. Avec des problèmes de dysfonctionnement de cet estuaire, puisqu'il y a des barrages qui empêchent après la migration de ces poissons. Donc voilà un peu les quatre habitats qu'on essaye de protéger sur la réserve naturelle. Donc les missions de la réserve naturelle, elles sont prévues par la loi. C'est une loi qui date de 1976, qui était la première grande loi de protection de la nature en France, qui définit les deux grandes missions des réserves naturelles. C'est protéger le patrimoine naturel, protéger les espèces qui sont rares, menacées. Et l'autre mission, qui est souvent moins connue du public, c'est la connaissance. C'est-à-dire, on doit développer les connaissances pour protéger le site. Donc ça va bien sûr de l'inventaire, connaître quelles sont les espèces qui fréquentent le site, les suivis, comment ça évolue dans le temps, et puis les programmes d'études et de recherche. On s'est rajouté une troisième mission qui est de la sensibilisation, l'explication à pourquoi il y a une réserve naturelle, pourquoi il y a une réglementation, pourquoi les chiens doivent être tenus en laisse, etc. Cet aspect communication, c'est aussi une mission qui n'est pas prévue par la loi, mais qu'on fait dans la plupart des réserves naturelles en France. Et qui est indispensable parce que si on veut que les gens respectent la réglementation, il faut qu'ils la comprennent, il faut qu'ils comprennent l'importance de la tranquillité de ce site, hein, puisque ici on va accueillir 40 000 oiseaux au cours de l'hiver. Donc on doit expliquer aux gens voilà, pourquoi ces oiseaux qui ont fait des milliers de kilomètres depuis la Sibérie, depuis le Groenland, doivent avoir des espaces de tranquillité où ils ne sont pas dérangés. Une réserve naturelle dans un secteur, ça va être bien sûr une équipe, mais ça va être aussi un conseil scientifique. On a la chance d'avoir ici un conseil scientifique d'une trentaine de membres, donc on a des experts dans tous les domaines. Et on va pouvoir développer des programmes d'études, de recherche ou de suivi. On en a un qui est intéressant parce que ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on le mène, c'est l'évaluation du gisement de coque de la baie de Saint-Brieuc. Donc depuis 20 ans, on évalue la quantité de coque, on cartographie sa répartition et on fournit ces éléments au comité des pêches et aux instances qui vont réglementer la pêche professionnelle, le nombre de licences, les quotas, etc. Donc là, on apporte de la connaissance au territoire. Et cette expertise, on l'a exportée également sur tout le littoral, Manche et Atlantique, puisqu'on évalue maintenant sur une dizaine de sites en France, depuis une dizaine d'années à peu près, les différents gisements. Et actuellement, on met en place une application qui permettra à chaque opérateur, à chaque comité des pêches, de faire leur propre évaluation. Donc c'est aussi un rôle des réserves naturelles, de développer des expertises. Et après, ces laboratoires à ciel ouvert permettent de développer ces activités sur d'autres sites.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie encore Maëla Desbois, coordinatrice générale des élus de la FEDEB, de nous avoir parlé des élections UFR, et Olivier Cuzon, délégué syndical, de nous avoir parlé des licenciements économiques en cours à la Maison pour tous de Pénard-Créage. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez manifester contre ce licenciement, rendez-vous le 26 février à 11h devant la MPT de Pénard-Créage. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Je vous souhaite une excellente soirée sur le 101.1 FM. All the words.
j'imagine plein.